C'est une joie pour moi d'être parmi vous ce matin pour louer le Seigneur, pour l'adorer et aussi pour partager la parole de Dieu. Et je remercie Dieu de m'accorder la force, la santé pour accomplir encore sa volonté. Et avant de méditer la parole de Dieu, nous allons prier encore. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons, nous t'adorons pour ce temps béni. Nous te remercions car tu es ce Dieu qui prend soin de nous, qui nous donne la joie et la paix, qui nous donne la force par ton Esprit Saint. Veuille nous accorder ta présence et bénis chacun de nous ici ce matin. Et que ton nom soit loué au nom de Jésus. Amen. Amen. Il y a quelques années, j'étais à un séminaire. L'orateur nous a posé une question. Si vous deviez être abandonné sur l'île déserte ou être privé de la Bible et que vous n'avez droit qu'un livre de la Bible, lequel choisirez-vous? Je vous pose aussi la question. Un frère a dit et a répondu, j'espère sincèrement ne jamais avoir à faire ce choix. Mais si je le devais, je pense que je choisirai le livre des psaumes. Voilà. Le psaume, oui. Le psaume, parce que déjà, il y a 150 chapitres. Puis, l'étendue des sujets qu'il aborde est si vaste. Le catalogue des expériences de la vie, riche. Et l'invitation à célébrer Dieu si exaltante. Le psaume nous relate une nourriture spirituelle si abondante et si bienfaisante qu'elle nous pousse et nous rend capables de louer Dieu et de prier pendant longtemps. Plus de la moitié des psaumes sont dédiés à David et souvent appelés psaumes de David. Dans certains psaumes, David les a écrits suite à des événements qu'il a traversés. Pour notre instruction ou pour votre information, les commentateurs rangent les psaumes en 5 catégories. Vous les connaissez? En 5 catégories. Il y a le psaume historique, en rapport avec des événements précis, des faits de l'histoire d'Israël ou de la vie du psalmiste. Le psaume messianique, qui parle des souffrances de Christ et de la gloire qui les suivrait. Le psaume prophétique, qui évoque les tribulations d'Israël et qui évoque des paix et des prospérités. Les psaumes de repentance qui évoquent les profondes confessions de péché du psalmiste et son cri déchirant, implorant Dieu. Le psaume d'imprécation dans lequel l'auteur demande à Dieu de se venger des ennemis de son peuple. Il faut souligner que d'autres psaumes sont des expressions de la louange ou de l'adoration personnelle ou communautaire adressée à Dieu. D'autres racontent comment le Seigneur a agi avec son peuple. Vous devinez sûrement ma méditation ce matin, c'est sûr ? Sur le psaume. Et je vous invite à lire le psaume 18. Le psaume 18, du verset 1 à 4, et puis le verset 33, après. Donc, le psaume 18, verset 1 à 4, et le verset 33. Au chef des centres du serviteur de l'Éternel, de David, qui adressa à l'Éternel les paroles de ce cantique, lorsque l'Éternel l'eut délivré de la main de tous ses ennemis et de la main de Saül. Il dit, « Je t'aime, ô Éternel, ma force, Éternel, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur. » Mon Dieu, mon rocher où je trouve un abri, mon bouclier, la force qui me sauve, ma haute retraite. Je m'écris, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de tous mes ennemis. Le verset 33, c'est Dieu qui me ceint de force et qui me conduit dans la voie droite. C'est Dieu qui me ceint de force et me conduit dans la voie droite. Ce psaume reprend presque mot par mot 2 Samuel 22, psaume de reconnaissance après la délivrance et la victoire. L'unique moyen d'être délivré du mal, c'est de demander à Dieu son aide et sa force. Le psalmiste l'a écrit en temps de paix pour remercier Dieu pour ses hauts faits et ses bénédictions. J'ai relevé 3 points de ce verset 33. Le premier point, c'est qui est Dieu. Deuxième point, c'est quelle force Dieu nous donne. Et le troisième point, comment Dieu conduit le psalmiste dans ce chemin droit, ou dans la voie droite selon la tradition. Qui est Dieu? Peut-être, nous allons dire, mais on connaît Dieu, on parle toujours de Dieu, mais c'est plus la peine d'en parler. Tout le monde le connaît, tout le monde le sait qu'il existe, qu'il est le créateur de l'univers, qu'il est le Dieu d'amour, qu'il est le Dieu saint. Nous venons de l'étudier il y a quelques mois, la confession de foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, créateur du ciel et de la terre. Je crois qu'il est amour et saint et juste. C'est vrai que nous les connaissons un peu. Et moi, je pense que même jusqu'à la fin de notre souffle, nous n'arriverons jamais à le connaître, qui il est vraiment. Nous croirons petit à petit à le connaître. Qui est Dieu? La réponse, c'est David lui-même qui m'a donné. C'est le verset 32. Si quelqu'un peut le lire, le verset 32, il est dit, « Car qui est Dieu si ce n'est l'Éternel ?» La réponse de David, c'est « Dieu est l'Éternel. » D'éternité, il est Dieu. Étant éternel veut dire aussi qu'il n'a ni début ni fin. Et il est le commencement dans Genèse 1. Si quelqu'un peut lire le psaume 90, verset 2, qui nous parle de qui est ce Dieu. Psaume 90, verset 2. Et puis quelqu'un peut lire aussi Ésaïe 40, verset 28, tout à l'heure. On va lire ces deux textes. Psaume 90, verset 2.
Avant que les montagnes soient nées, avant que tu aies créé la terre et le monde, d'éternité en éternité, tu es Dieu.
Ésaïe 40, verset 28. Si quelqu'un peut le lire, Ésaïe 40, verset 28.
Ésaïe 40, verset 28. Ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu de l'éternité, l'Éternel, qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point, il ne se lasse point. On ne peut sonder son intelligence.
Amen. Il est Dieu, notre Dieu, et d'éternité à l'éternité. Et si nous sommes ici ce matin, frères et sœurs, c'est adorer ce Dieu Tout-Puissant, ce Dieu éternel. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, si vous saisissez que Dieu est celui qui a créé les cieux et la terre. C'est lui que nous adorons ce matin. L'Éternel fait partie de la liste des noms de Dieu. Le nom de Dieu, Elohim, Dieu, Elion, Dieu qui voit, Yahvé, Dieu éternel, El Shaddai, Dieu Tout-Puissant, Adonai, Seigneur, Yahvé Jiré, Dieu pouvoir, Kedash, Dieu saint. C'est formidable de savoir que ce Dieu que nous adorons, que nous servons, est un Dieu vivant, un Dieu tout-puissant, un Dieu qui pouvoir. Mais je me suis posé la question, si David connaît ce Dieu éternel, ça lui fait quoi? Si vous connaissez Dieu, que Dieu est éternel, ça vous fait quoi dans votre vie? Ça vous fait quoi? À rester muet? À ne pas ouvrir la bouche? À ne rien faire devant Dieu? C'est Dieu de David, c'est lui qui procure la paix, celui qui procure la confiance, celui qui procure le courage, que David ne craint rien, car il a un Dieu tout-puissant. Il sait que quand tu auras besoin de quelque chose, il sait où aller. Quelles que soient les difficultés qu'il traverse, il sait que Dieu est là. Quand je marche dans... Car tu es avec moi. Amen. Est-ce que vous le vivez, ça? Est-ce que nous vivons ça? On dirait que... Moi, j'ai dit, mais moi, je me couche, que avant je m'élève à 6h, à 7h du matin pour prier. Mais maintenant, je n'arrive pas à m'élever qu'à 9h. Des fois, j'ai honte, j'ai dit, mais Seigneur, mais qu'est-ce que je fais sur ce lit? Alors que j'ai un Dieu vivant que je dois louer, que je dois adorer. On peut prier sur le lit, mais quelquefois, je ne sais pas, si on prie à genoux, hein. C'est pas que c'est. Il faut le faire, mais quand on prie à genoux, quelquefois, on est concentré à adorer notre Dieu. Et le psaume 139, versets 2 et 3. Lisons ce psaume pour que nous puissions nous rendre compte de ces dieux que nous adorons, frères et sœurs. Psaume 139, versets 2 et 3. Quelqu'un peut le lire fort?
Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Tu pénètres devant la pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche. Et tu pénètres toutes mes voies.
Amen. Tu pénètres, tu vois. Moi, j'ai dit, quelquefois, j'ai eu peur. Hein. J'ai peur même. Parce que là où je vais, Dieu est là, Dieu me voit. Quand je me lève, quand je me couche, il est là. Et ça m'arrive. Et j'ai dit, mais devant la télé, est-ce que Dieu est là ou Dieu n'est pas là? L'Éternel est avec nous. Il nous voit. C'est pas pour nous juger, nous critiquer, mais il nous voit pour nous bénir. Il est derrière nous, il est avant nous. Le psaume 121 nous montre aussi que l'Éternel nous garde notre départ et notre arrivée. Dieu ne change pas, il est toujours le même. Dès la création jusqu'à la fin, de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, Dieu est vivant. Le système change, la politique change, mais Dieu ne change pas. Quand j'étais jeune, il y a le communisme était arrivé à Madagascar, qui nous a promis qu'on aura la vie merveilleuse, qu'il n'y aura pas de problème, on peut partager fraternellement. Et puis tout le monde s'est engagé. On s'est engagé, on était à fond. Et maintenant, où est le communisme? Mais Dieu, il est toujours là. Amen. Dieu est toujours là. Et c'est lui qui donne la force à David. C'est lui qui donne la force à David. Et cette force, David l'a décrit. Et vous voyez ce que David a dit par rapport à Dieu. Moi, j'étais frappé de sa relation avec Dieu quand il dit sur Dieu, à ce psaume 18, qu'est-ce qu'il dit? Il va déclarer pour dire que Dieu, c'est Dieu qui le sait de force, c'est mon deuxième point. Il dit, c'est-à-dire pour exprimer sa relation, sa joie, pour exprimer qu'il a un Dieu vivant. Et moi j'ai dit, quand David a écrit ça, il ne sait plus quoi dire par rapport à la bonté, à la qualité, à la grandeur de Dieu. Et vous savez ce qu'il a dit au verset 2? Il a dit, je t'aime, ô Éternel, ma force, je t'aime. Est-ce que vous avez déjà dit à Dieu, je t'aime, papa? Amen. Je t'aime. Oh, le cœur de Dieu est touché. Je suis sûr. Parce que, à qui on dit on aime que je t'aime? Hein? C'est pas à tout le monde. Moi, je peux dire à l'horizon, je t'aime l'horizon. Je vous aime aussi. Dieu, David a dit, je t'aime. J'ai dit, mais David ne trouve plus le mot pour exprimer sa joie, sa relation avec Dieu. Et c'est pour ça qu'il a dit, je t'aime, ô Éternel. Ma force. Voilà, le secret de David, c'est Dieu et sa force. C'est lui-même qui le déclare parce que, à la suite de ce verset, le verset 3, la protection que Dieu accorde aux siens sont illimitées et peut prendre de nombreuses formes. Et David emploie 5 symboles militaires pour décrire cette force, cette protection. Et moi je dis, mais il ne dit pas comme ça, je t'aime, tu es fort, tu es juste, tu es... Non. Mais s'il le dit, c'est qu'il le croyait. Et qu'est-ce qu'il a dit? Le premier, si je prends ce qu'il a dit, hein, je n'ai pas inventé, mais c'est David qui le dit. Il a dit, Dieu, tu es mon rocher. Cela veut dire quoi? Qui ne peut être déplacé par celui qui voudrait causer du tort aux croyants. Tu es mon rocher. Tu ne peux pas changer, tu ne bouges pas, tu me soutiens. Amen. Voilà, c'est Dieu. Tu es mon rocher. Deuxièmement, oui, je dis, tu es ma forteresse, c'est-à-dire un endroit sûr, inaccessible à l'ennemi. Quand tu es avec Dieu, l'ennemi ne peut rien faire, frères et sœurs. Troisième point, il est quoi? Il est le bouclier qui fait obstacle entre les croyants et l'ennemi. Donc, il est le bouclier. Personne ne peut m'attaquer ni m'avoir. Quatrième symbole, c'est une force qui sauve. Symbole de grande puissance. Et le cinquième symbole, c'est un rempart qui s'élève bien haut et retient les ennemis. Quelle que soit la forme d'attaque subie, nous trouverons la protection nécessaire auprès de Dieu. Amen. Dieu nous protège et Dieu nous donne tous les moyens pour vaincre nos ennemis. Et si vous lisez la suite de ce psaume 18, moi j'étais frappé, mais j'ai dit, mais quand même, Dieu a permis à David d'avoir ça, parce que Dieu a vu aussi comment est le cœur de David. Le cœur de David, c'est... Qu'est-ce qu'il est dit par rapport à David?
Il est
l'homme selon le cœur de Dieu. Il est l'homme selon le cœur. Pourquoi? Parce que tout ce qu'il fait, il le fait pour la gloire de Dieu. Regarde le verset 34. Il dit, il rend mes pieds semblables à ceux des biches. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches. Il exerce à mes mains au combat. Et mes bras, comme les jeunes quand ils disent, quoi. Il a les biceps, hein. Et c'est ce qu'il a dit. Et mes bras tendent l'arc des reins. Tu me donnes le bouclier de ton salut. Ta droite me soutient. Et je deviens grand par ta bonté. David reconnaît que Dieu est grand et tout puissant. C'est vrai, c'est frère et sœur. C'est Dieu qui est notre force. Et le proverbe dit, la fierté des jeunes gens, c'est leur force. Est-ce que vous croyez ça, les jeunes? Proverbe 20, 29. Et je m'adresse aux jeunes. Vous êtes jeunes. Vous avez la force physique, mais aussi vous pouvez avoir aussi la force spirituelle. Parce que vous êtes l'œuvre qui serait aussi entre la main de Dieu. Et vous êtes déjà à l'œuvre pour Dieu. Ne craignez point, partout où vous allez, sachez que votre Dieu est vivant, amen, que vous êtes avec Dieu, et que Dieu est là, il vous voit, et il veut vous bénir. Il y a beaucoup de choses que vous vivez autour de vous, moi je vois un peu, avec mes jeunes, avec mes enfants, mais ne craignons pas, restez fidèles jusqu'au bout, même si vous avez des soucis, des problèmes, de rechute spirituellement, revenez à Dieu parce qu'il vous aime. Ne dis jamais Dieu m'a abandonné. Ne dis jamais je ne peux rien faire parce que Dieu, il est là avec vous. Et quel que soit l'endroit où vous allez, sachez qu'il vous accompagne parce qu'il vous aime aussi. Amen. La force que nous avons vient de Dieu, chers amis. Acte 1, verset 8, il est dit, « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. » Le Seigneur nous donne le Saint-Esprit. C'est lui qui a la puissance pour nous permettre de manifester sa grâce et sa bonté. Si vous êtes parmi ceux qui disent « Mais je ne peux rien faire, moi je suis faible, moi je n'ai pas la capacité. » Qu'est-ce que l'apôtre Paul vous adresse ce matin? Il vous dit dans 2 Timothée 1, 7, hein? Je suis faible, oh Timothée, parce que Paul, il sait que Timothée, c'est quelqu'un peut-être faible, timide. Et l'apôtre Paul lui dit, ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Si vous êtes parmi ceux qui disent, moi je peux pas, je pourrais pas, je suis incapable, demande à Dieu pour qu'il vous remplisse de sa force. Notre force, c'est en Christ. Et j'ai demandé aux musiciens tout à l'heure de chanter ce chant. Si dans ton cœur tu veux le recevoir, la force est dans le sang de Christ. Dieu nous accorde des bénédictions et tous ceux qui ont besoin de force sont appelés à venir auprès de Dieu. Ceux-ci s'appuient sur leurs chars, ceux-là sur leurs chevaux. Mais nous, nous invoquons le nom de l'Éternel qui est la force de la victoire. Et quand on fait les ministères de délivrance ou de guérison, ils disent, mais au nom de Jésus. C'est tout est fait au nom de Jésus. Parce que Jésus qui donne la force et la liberté. David lui-même, en face de Goliath, il a déclaré qui est cet incirconcis qui insulte le Dieu vivant. Il a demandé à Dieu de lui donner la force. Élie, face au prophète Baal, il a demandé à Dieu la force. Jésus, à Gethsémané, avant de aller à la croix, il a été fortifié par le Seigneur. Parce qu'il nous donne la force, parce que nous allons sont conduits dans le chemin de la victoire. David ne peut pas aller dans le droit chemin, c'est mon dernier point, dans le chemin de la victoire, sans qu'il n'a pas reçu cette force. Dieu va le conduire, Dieu va manifester sa présence, Dieu va accorder la grâce et la bonté. Et verset 37, regarde le verset 37 du psaume 38, du psaume 18. Là aussi j'ai dit, mais c'est formidable. C'est formidable comment David vit avec Dieu. Et dans ce combat qu'il mène, il dit au verset 37, « Tu élargis le chemin sous mes pas, et mes pas ne chancèlent point. » Je poursuis mes ennemis, je les atteins, et je ne reviens pas avant de les avoir anéantis. Je les brise, et ils ne peuvent se relever, ils tombent sous mes pieds. C'est ce qu'il a fait à Goliath. Si vous relisez l'histoire de David et Goliath, c'est ce qu'il a fait, il l'a brisé, il ne peut plus se lever, et il tombe sous ses pieds. C'est ça, la force que Dieu donne à son peuple. Et le verset 40, il dit, « Tu me ceins de force pour le combat, tu fais plier sous moi mes adversaires. » Chers frères et sœurs, c'est Dieu de David, c'est notre Dieu. C'est un Dieu tout-puissant, un Dieu qui nous donne la force, un Dieu qui vit, qui est éternellement. Et dans Éphésiens chapitre 6, verset 13, on nous parle des armes spirituelles. Il parle de nos pieds, les chaussures, le zèle de l'évangile. Si on regarde un peu ce chapitre 6, venez, je fais la pub. Mardi, c'est mardi, la réunion de prière, c'est mercredi, venez mercredi. Vous avez la force, non? Qu'est-ce que vous allez faire mercredi? Quand on vient ici à mercredi pendant l'été, on dit, mais oh, il n'y a rien. Si, si, il y a une bénédiction encore. Parce que l'Église est bénie, amen. Amen. Il faut le dire devant l'ennemi. Notre Église est bénie parce que nous avons un Dieu vivant. Ma vie est bénie parce que je suis avec Dieu. Votre vie est bénie parce que Dieu est avec vous. Ne crains point, crois seulement. Il a élargi le chemin, c'est-à-dire il a enlevé tout ce qui est devant moi pour que je puisse aller annoncer la bonne nouvelle. Je peux poursuivre mes ennemis et je peux accomplir la volonté de mon Dieu. La mission de l'Église, c'est quoi? Notre mission, c'est dans Matthieu 28, 19. Allez! Donc le Seigneur a ouvert le chemin. Il nous donne la force pour aller. Il me conduit dans le chemin de la victoire. Frères et sœurs, ne craignez rien, ne craignez point. Et prenez le zèle de l'évangile. C'est-à-dire, Dieu nous donne donc de rapidité pour annoncer l'évangile. Allons avec Étienne, allez dans les rues, avec les sœurs qui font le trottoir. Le trottoir, hein. C'est eux qui disent ça, hein, c'est pas moi, hein. C'est eux qui disent ça, elles font les trottoirs. Ça veut dire quoi? elles sortent donc sur le trottoir pour annoncer l'évangile. Ils ont besoin d'aide, ils ont besoin de vous. Ne restons pas à la maison, frères et sœurs. Dieu a dit, j'ai des âmes à sauver dans cette ville. Allez, faites toutes les nations des disciples. Concrètement ou pratiquement, c'est quoi ? Faire le trottoir ? Ou aller à Champol, à la Madeleine ? C'est ça, la force que Dieu nous donne. Moi, j'ai dit, mais moi, c'est ça, hein, c'est ma nature. Moi, quand j'ai dit, mais gloire à Dieu, la salle est pleine maintenant, et on a poussé les murs, mais après, il y a la Madeleine. Il faut voir la vision que Dieu nous donne, comme il a dit à l'apôtre Paul. J'ai des âmes à sauver dans cette ville. L'église, c'est ça le rôle de l'église, c'est de sauver des âmes, d'implanter des églises et semer. On donne la vision, et c'est pas vous qui allez l'accomplir. Et moi, je remercie Dieu. J'avais la vision, et quand je regarde ce que Dieu fait, comme Moïse, Dieu a donné la vision à Moïse, mais Moïse n'a pas traversé le fleuve du Jourdain. Il l'a vu de loin. Parce que c'est ça sa vision. Nous qui avons la vision, c'est pas à nous qui allons accomplir. Moi, c'est que je rends grâce à Dieu, que je vous remercie pour votre prière. Quand on a commencé la mission à Madagascar, on a commencé avec 4 noyaux d'église, et puis ils nous ont appelés, on leur a donné la vision de la multiplication. Donc en 91, il y avait 4 noyaux d'église. On a transmis la vision, on a quitté Madagascar en 2006, et quand on est revenu l'année dernière, je suis émerveillé. Vous avez combien d'églises maintenant ? 86 églises dans toute l'île. La vision vient de Dieu, mais c'est pas vous qui allez l'accomplir. Vous lui transmettez la vision. Vous avez une vision et c'est à vous de la partager aux uns aux autres. L'Église est bénie. Et c'est à nous de mettre en valeur la gloire de Dieu. Et nous pouvons dire comme David, on ne sait plus quoi dire, Seigneur, nous t'aimons parce que nous sommes bénis. Amen. Nous pouvons dire ça. Et dans Jean, chapitre 15, il est dit, verset 26, « Quand sera venu le Consolateur, que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. » Le Saint-Esprit va rendre témoignage à Jésus. Il va rendre témoignage qui est Jésus. Mais le verset 27 de Jean 15, regarde bien, « Et vous aussi, vous rendrez témoignage parce que vous êtes avec moi. » Vous n'êtes pas seul, vous n'allez pas seul, mais vous êtes avec Jésus. Et le Saint-Esprit est en vous pour que vous alliez accomplir la volonté. Et si vous allez faire des œuvres pour Dieu, sachez que vous n'êtes pas seul. Notre Dieu, il est éternel. Il est le Tout-Puissant. Il est le Dieu créateur. Il nous donne la force pour être à son service. Ce n'est pas pour nous rester sans rien faire, mais nous équiper par le Saint-Esprit pour que nous puissions aller accomplir la volonté. Chers frères et sœurs, moi j'ai dit, maintenant quand je prêche, je transmets. Je transmets, je ne sais pas combien de temps qu'il me reste à vivre, mais j'ai dit, je transmets maintenant que nous avons un Dieu vivant. Vous les jeunes, restez fidèles, parce que Dieu, il est avec nous. Et c'est à vous d'accomplir la volonté de Dieu, parce que nous avons la force. C'est Dieu qui me scinde des forces et me conduit dans le chemin droit. C'est Dieu qui m'équipe et qui vous équipe dans votre vie de famille, dans votre vie d'église, dans votre vie tout seul, en seul. Dieu est un Dieu qui pardonne, comme notre frère a dit. Dieu aussi, c'est un Dieu qui prend soin de vous et qui prend soin de moi. Manifeste cet amour de Dieu dans notre vie, dans la vie de notre Église, car il est notre force. La force est en Christ. J'ai demandé, pour terminer ce message, ce chant. si dans ton cœur tu veux le recevoir, la force est en Christ. Donc nous allons chanter pour, comme un engagement pour chacun de nous, pour que nous puissions toujours rester fidèles jusqu'au bout pour accomplir la volonté de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen.
Amen.